Vous écoutez France Culture.
Hello.
Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi. Calme-toi.
On va se calmer par amour tout de suite dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question de cinéma, d'Emmanuel Riva qu'on vient d'entendre, de Michael Haneke, de tueur en série et même d'amour avec Yves Montmaillier qui signe Michael Haneke, profession réalisateur. Un documentaire sur le réalisateur au travail avec tournage, témoignage des comédiens pour une histoire possible de la violence. Claire Maillot.
Un montage qui refuse la voix off et travaille la confusion entre images de plateau et séquences de films ou comment éviter le didactisme et l'interprétation.
Le questionnaire du lundi de Manu Farine pour son invité rencontré le week-end. Ce soir, ce sera l'ingénieur du son Erwan Kerzané. Et puis nous recevrons Axel Cadieux qui publie une série de tueurs, les serial killers qui ont inspiré le cinéma. Un essai qui liste 11 films, du Silence des agneaux à Massacre à la tronçonneuse, pour une histoire impossible de la violence. Manu Farine.
Boucher, croque-mitaine, éventreur, mante religieuse, cannibale, vampire, petite typologie donc du serial killer ou comment le cinéma interprète la figure ultime du crime.
Sans transition, la programmation musicale duel ce soir avec les Water Babies et c'est le retour de Mathieu Conquet. Mais tout le monde revient, c'est formidable, la famille est là.
Water Babies, oui, le jeune duo qui publie Inner Island où une voix au vocodeur tempère le dialogue batterie et clavier, dialogue plus intérieur qu'insulaire, je vous expliquerai pourquoi, ils joueront seuls en direct.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture avec Xavier Martinet qui revient sur la polémique autour du film d'Abel Ferrara « Welcome to New York ». Et puis on retrouvera bien sûr les brèves de Benoît Lagane qui a coupé ses cheveux. C'est une bonne chose. Hein.
Ça n'intéresse personne. Vous
si, moi ça m'a intéressé, je vous ai demandé ça pendant 15 jours.
C'est vrai, mais ça y est, c'est fait.
Bonsoir Xavier Martinet.
Bonsoir Laurent.
Dépression autour du film, dépression en deux mots, hein, pas dépression. Dépression autour du film d'Abel Ferrara sur l'affaire DSK Welcome to New York. C'est ce que dénonçait hier dans le JDD le producteur Vincent Maraval qui parle de relations incestueuses entre cinéma, médias et politique. Alors, autocensure des milieux du cinéma pour un film jugé trop sulfureux ou boycott commercial à cause de l'exploitation numérique du film, difficile de savoir.
Difficile et en tout cas pour Vincent Maraval c'est clair, c'est le contenu et le projet même du film qui sont en cause alors que Welcome to New York, vous le savez, n'est pas sélectionné à Cannes. Vincent Maraval en veut pour preuve des pressions à tous les niveaux ces derniers mois, des producteurs et des acteurs comme Isabelle Adjani qui se défilent, le retrait plus récemment de deux partenaires de l'affiche du film et il met même en cause directement Anne Sinclair qui lui en voudrait et le groupe UGC surtout qui lui refuse l'exploitation ou refuserait l'exploitation du film en Belgique, bref un boycott politique. Alors politique ou économique effectivement puisque pour les exploitants de cinéma, eh bien le potentiel subversif de Welcome to New York tient aussi à son mode d'exploitation, donc exclusivement sur Internet. Faute de mieux, en fait, il met les milieux du cinéma au pied du mur, alors que la réglementation, vous le savez, donne la priorité aux salles. C'est ce qu'on appelle la fameuse chronologie des médias.
Donc, il faut être très clair, le film sort uniquement sur Internet.
Uniquement sur Internet. Il sortira le 17, d'ailleurs. Et Wild Bunch, donc le producteur du film, lui, qui ne se cache pas, d'ailleurs, de vouloir faire de ce film une tête de pont, dans le débat, craint d'être maintenu dans une niche. Écoutez un des producteurs, Brahim Choua.
Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un film qui a eu plus que des difficultés en France, puisqu'il n'a pas été financé en France par nous en partie. Et puis, ça aurait été beaucoup plus simple pour tout le monde qu'il soit dans les sélections du Festival de Cannes. Ça aurait fait moins de bruit. Ce n'est pas du boycott, c'est effectivement de l'autocensure. Je n'ai pas entendu de la part d'exploitants de réticence sur le contenu du film. Je n'ai pas entendu Alain Sucet de dire « de toute façon, ce film ne nous intéresse pas ». Et on trouve que c'est un film, de par le sujet, de par l'attente qu'il y a sur ce film, c'est l'exemple même du film qui doit être en salle, en VOD, en DVD, tout ça en même temps. On essaie de faire en sorte que les choses bougent. Quand on doit sortir un film sur 50 ou 80 copies, et qu'en général il y a un tiers des copies qui se trouvent à Paris ou en région parisienne, ça veut dire que le reste de la France doit prendre sa voiture et faire quelques dizaines ou centaines de kilomètres s'il a envie de voir le film.
Alors, qui fait vraiment pression sur le film pour limiter son exploitation, c'est toujours un peu compliqué à dire, surtout qu'on a l'impression d'être dans un plan de communication, en fait.
Un petit peu, en effet. Un peu comme lors de l'affaire, d'ailleurs, du salaire des stars, vous vous rappelez, il y a plus d'un an maintenant. Alors, sollicité cette fois-ci par l'AFP, ce sont les exploitants indépendants AR et Essai qui se sont montrés très réservés, effectivement, sur cette évolution de la chronologie des médias, alors que les réalisateurs de l'ARP, l'Association des réalisateurs producteurs, parlent au contraire d'un système archaïque concernant la chronologie des médias. Le directeur directeur du GC, lui, Alain Susfeld, vous l'avez entendu, Brahim Choua en parlait, s'était dit dimanche dernier opposé effectivement à une diffusion simultanée sur Internet et en salle, quels que soient les pays, mais tout à l'heure, au téléphone en tout cas, il affirme ne pas avoir fait pression sur les UGC belges qui ont pris leur décision à cause de la nature du film, dit un communiqué qui a été envoyé un peu en urgence ce matin. Alors, nature ou mode de diffusion, Alain Susfeld, lui en tout cas, ne veut pas de ce film.
Le problème de la diffusion du film en Belgique n'est pas mon problème. Il ne faut pas tout confondre. Le film, il est ce qu'il est. Vous en connaissez à la fois la nature et, je dirais, la thématique. Il semblerait que ce soit compliqué de le diffuser en salle de cinéma. Donc, Wellbunch essaye d'en faire une illustration d'une règle nouvelle qui serait la diffusion hors les salles de cinéma. Très bien. Il est parfaitement libre de le faire. Et nous, on est parfaitement libre de ne pas le prendre. Je défends que le cinéma, c'est d'abord une œuvre dans une salle de cinéma. Et que c'est la salle de cinéma qui donne à cette œuvre ses caractéristiques, sa notoriété et sa potentialité. En ce qui me concerne, je ne me prêterai pas à être simplement un relais d'un autre mode de diffusion qui serait la VAD. Et toute déstabilisation de la chronologie des médias est un facteur qui déstabilise fondamentalement notre mode de financement du secteur et donc de la production.
En tout cas, le débat est posé. En France, les expériences de ce genre sont effectivement assez rares et traitées très différemment. Une déprogrammation à Paris pour un film brésilien montré sur Internet également en 2012, mais un programme européen expérimental a lui montré un film portugais une semaine en VOD en avril dernier, avant de le diffuser dans 4 salles indépendantes. Alors le débat continue en tout cas à la projection du film à Cannes. Ce sera samedi 17 au matin.
Peut-être des réactions sur cette chronologie des médias, sur ce film de la part de nos deux invités. Axel Cadieux d'abord, critique de cinéma.
Oui, ben moi j'ai très envie de le voir parce que j'aime beaucoup Abel Ferrara depuis un petit moment maintenant et puis bon, ça aiguise ma curiosité.
Donc vous le regarderez sur Internet ?
Ben, je le regarderai sur Internet, peut-être à Cannes s'il est projeté, je ne sais pas, je sais pas exactement encore. Sur l'histoire de la chronologie des médias, j'ai pas vraiment d'avis parce que j'adore le principe de la salle, j'adore l'événement, j'adore la sortie. Pour autant, pour quelqu'un comme moi qui vient de province, dans ma jeunesse, enfin, je sais aussi qu'il est très compliqué d'aller au cinéma quand on ne vient pas de Paris et de voir les films qu'on veut voir, d'autant plus en VO. Donc je suis partagé, je trouve qu'il y a des avantages et des inconvénients.
Yves Montmeyer, documentariste.
Ah mais moi, de toute façon, j'irai certainement compléter ma collection de DVD pirates en allant à Hong Kong ou à Jakarta et trouver les éditions revues parfois et augmentées avec les sous-titrages qui aussi sont un peu déviants. Oui,
mais vous êtes un criminel.
Ah oui, non, mais c'est sur d'autres de films. Vous savez, à l'époque, tous les films qui étaient un peu interdits comme ça ou qui avaient des affaires, on les trouvait tout de suite justement sur ces marchés. Cette cinémathèque de la rue qui existe en Chine ou ailleurs et qui nous permettait de voir ces films effectivement avec cette idée de pirate, d'interdit qui excitait notre imagination.
Et sur la chronologie des médias, est-ce que vous avez, vous, en tant que documentariste,
je crois que de toute façon, là, c'est tout nouveau, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est pour le coup, oui, ça va être vraiment très pionnier. C'est une expérience pionnière. Alors, de part et d'autre, évidemment, on va avoir des positions de tranchées, mais c'est clair que c'est peut-être une nouvelle manière de sortir des salles et surtout de plus avoir, d'échapper à certaines pressions.
Merci, Xavier. On se retrouve demain.
Demain.
Vous serez là. Bonjour Benoît.
Bonjour Laurent.
Qu'avez-vous fait de tous vos cheveux ? Vous les avez donnés à notre réalisateur qui n'en a plus ?
À une association.
Très bien, on y va.
Et pour ouvrir ces brèves, Laurent, on reste un instant encore du côté du cinéma et d'Internet avec la remise aujourd'hui d'un rapport d'Adopi à la ministre de la Culture. Ce rapport, issu d'une mission confiée en juillet 2013, est destiné à élaborer, je cite, « des outils opérationnels dans le cadre de la prévention et la lutte contre la contrefaçon commerciale en ligne ». Bien, parmi les nombreuses indications, la mission propose, je cite, « d'assécher les ressources financières des sites qui diffusent illégalement des films ou de la musique avec le soutien des acteurs de la publicité et du paiement en ligne ».
Mathieu Gallet est arrivé.
En effet, c'est aujourd'hui que le nouveau président de Radio France, Mathieu Gallet, s'est installé à la maison de la radio et dès son arrivée, deux annonces ont été faites avec la nomination de deux nouveaux directeurs, celui de France Info et celle de France Musique. Et c'est Laurent Guimier qui a été choisi pour prendre la direction de France Info. Venu d'Europe 1, où il a notamment développé le site web de la radio périphérique, le but de cette nomination, redynamiser une chaîne fortement concurrencée par les télévisions d'information continue et le web. Et puis à France Musique, c'est Marie-Pierre de Surville qui a été nommée. Passée par le cabinet de la ministre de la Culture, Christine Albanel, Marie-Pierre de Surville a été entre autres administratrice de la Maison des Arts de Créteil en 1994, directrice de la production du Festival Lyrique d'Aix-en-Provence en 2003 et directrice générale de la filiale des spectacles du Château de Versailles, c'était en 2006.
Valérie Mregen, récompensée.
C'est aujourd'hui que la Fondation Bernheim pour les arts, les sciences et les lettres, créée en 1981, qui a pour but de soutenir la création sous l'égide de la Fondation du judaïsme français, décerne ses prix, et les prix 2014 de la Fondation ont été remis aujourd'hui à la plasticienne, romancière et vidéaste Valérie Mregen, à l'ethnomusicologue Sima Arom et à l'écrivain dramaturge et scénariste Jean-Claude Grimbert.
Vous vous êtes enrhumé pendant ce week-end où vous êtes allé voir votre coiffeur.
Voilà, j'ai coupé les cheveux, donc du coup j'ai perdu ma voix.
C'est à cause de la barbe aussi qui a été coupée. Tu sois loué. Et pour terminer, la petite histoire du soir.
Eh bien ce soir, Laurent, une petite histoire d'amour tragique et de télé-réalité relayée par l'agencier de l'AFP à Istanbul, où comment un ancien détenu a dû se livrer à un grand moment de vérité à la télévision turque, je vous raconte. Tout commence après une longue peine de prison quand un homme âgé de plus de 62 ans décide de participer jeudi soir dernier à une sorte de tournée manège locale, une émission destinée à former des couples en direct à la télévision. Mais voilà que a dû expliquer à la Turquie toute entière que par le passé, s'il avait été meurtrier, il était désormais, je cite, un homme honnête qui cherche simplement une nouvelle femme.
C'était quoi son meurtre ou son crime ?
Eh bien, ce malheureux candidat qui cherche une femme désespérément a un lourd passif. Ce dernier a passé plusieurs années en prison pour avoir tué ses deux précédentes épouses.
C'est vrai que ça fait.
Et en direct, à la télé, innocent, l'ex-prisonnier a clamé : la femme qui va m'épouser ne doit pas avoir peur que je la tue. Et pour assurer de sa bonne foi, il a même déclaré qu'il donnerait volontiers l'intégralité de son salaire à sa future épouse. Quand je leur ai dit que j'ai tué mes précédentes femmes, les femmes me quittent. Mais j'ai passé 14 ans en prison et j'ai changé. Moralité, le candidat subit donc une double peine, puisque la production a demandé gentiment au tueur d'épouses en série de libérer le plateau et les paillettes. Le lendemain, le journal Habertürk précisait que le candidat avait tué sa première femme par jalousie et la deuxième par accident en faisant, je cite, tourner une hache.
Vous pouvez découvrir tout de suite immédiatement les premières candidates. Regardez.
Maman d'une fillette de 7 ans, Hélène a toujours la pêche et fait preuve d'humour dans toutes les occasions. À 44 ans, elle est prête à craquer pour le beau sourire d'un père de famille tendre et cultivé.
Les garçons qui sont à côté sont plus calmes. Enfin, on sait jamais. Regardez.
Dire que nous avons été comme ça un jour, pur et innocent. Tu veux que je te dise un secret ? C'est un tueur, ton papa. Mais je tue que les méchants.
Moi, je connais des gens qui font tourner les serviettes, mais des haches, j'ai jamais entendu ça.
Le rendez-vous.
Le grand cadeau, c'est de pouvoir faire des films. Pour ça, j'ai pas besoin d'un psychiatre.
C'est lui qui le dit. Plateau Haneke avec vous, Yves Montmaillère, documentariste, avec des films centrés sur des réalisateurs. Il y avait eu un portrait de Jonito en 2010. Et aujourd'hui, vous signez Michael Haneke, profession réalisateur. Et vous filmez Haneke au travail avec les témoignages de ses acteurs, Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant, Emmanuel Riva. Des images tournées pendant ces tournages, pendant Amour, pendant Caché. Alors, on le voit chorégraphier les scènes au plus près des comédiens. Ça, je ne savais pas. Hein. Je ne pensais pas que c'était un réalisateur qui mimait même les scènes pour ses acteurs. Ça fait plus de 15 ans que vous le suivez sur ses tournages. Pourquoi lui ?
Alors, ce genre d'aventure commence toujours par une rencontre. Et voilà, à l'époque, j'étais donc critique pour des magazines de cinéma mensuels. Et je me suis retrouvé tout simplement à l'interviewer dans un petit festival, d'ailleurs, à Rennes.
À l'occasion de quel film ?
Et bien, c'était Bénisse Vidéo. Hein, il venait juste d'être montré un mois auparavant à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. On était en 92. Je n'étais pas à Cannes, mais mes petits camarades m'avaient dit « Toi qui aimes bien les films radicaux, il faut absolument que tu vois ça. » Donc, je me suis déplacé à Rennes pour déjà voir le film et l'interviewer. Et l'avantage, c'est qu'à ce moment, il n'était pas très connu. Il intimidait tous les gens qui essayaient de l'approcher. Voilà, moi, j'ai tenté justement d'en savoir plus sur le bonhomme. Et on a passé un après-midi ensemble, en fait, une après-midi à discuter. Et puis, il est revenu à Paris et on a eu l'occasion de se rencontrer mille et une fois. Cela a débouché sur une amitié. Et puis, je me suis lancé à un moment donné, lui dire, ben voilà, j'aimerais bien te filmer au travail.
Est-ce qu'il y a eu des instructions de sa part ?
Absolument pas. C'est, comme j'ai l'habitude de dire, c'est quelqu'un qui, effectivement, est plus que très réservé, très méfiant. Mais quand il vous accorde sa confiance, on va dire, c'est pour la vie. Hein, c'est contrat de mariage. Donc après, effectivement, moi, mais vraiment, hein, je peux vraiment le dire, j'ai filmé ce que je voulais filmer, ce que je pouvais filmer.
Pendant des années.
Absolument.
Est-ce qu'il y a eu un tournage de Haneke qui a été plus marquant pour vous, justement, en tant que documentariste, sur ce travail-là ?
Oui et non, c'est-à-dire c'est en fonction des scènes. Il y a toujours des scènes très fortes dans chacun des films d'Haneke. Donc si évidemment je me trouve là au moment de cette scène-là, ça va évidemment me marquer. J'ai souvenir de sur effectivement le ruban blanc, des scènes, la scène en question, voilà qu'on retrouve d'ailleurs et qui est filmée, qu'on retrouve dans mon documentaire sur quand un des jeunes garçons se fait frapper par son père et martyrisé. Bon là, je me trouve là. Alors même s'il y a une ambiance un peu détendue qui désamorce un peu tout ce côté sordide, c'est toujours c'est toujours très toujours un peu choquant de voir un enfant même dans un jeu de scène qui se fait agresser, même si évidemment il ne s'est pas véritablement frappé, mais il y a l'intention et il y a le climat. Donc c'est vrai que c'est aussi fort presque que de regarder un film d'Haneke.
Claire Maillot.
Ce qui est frappant dans le documentaire, ce sont les extraits de films que vous avez choisis. Ce sont quasiment toutes des scènes violentes. Vous ouvrez sur la scène de meurtre de Bénice Vidéo. Il y a aussi la scène de suicide sous les yeux de Daniel Auteuil dans Caché. On voit les sévices infligés à la famille dans Funny Games, ce film qui raconte l'histoire de deux jeunes gens qui s'infiltrent chez un couple avec enfants qui les massacrent et en prenant à témoin le spectateur, un traitement de la violence qui divise. Montage par Thomas Beau.
Dans les films de Michael, parfois, je souhaiterais qu'il y ait un peu plus d'espoir et un peu plus de lumière. Je crois qu'il ne peut pas faire autrement.
Là, j'ai encore les jambes qui tremblent et ça fait très, très bizarre à voir.
Le premier film intelligent qu'on voit cette année.
Ça m'a fait penser un peu à Orange Mécanique 97. Hein.
Très immoral, parce que les méchants sont pas punis, donc je suis un peu déçu.
Extraordinaire, surprenant, éprouvant, fatigant, mais merveilleux.
C'est insoutenable et ça rappelle de mauvais souvenirs.
Une montée du nazisme raffiné.
Vous avez aimé ?
Pas du tout.
On entendait Juliette Binoche et puis certaines des réactions de spectateurs après la projection canoise de Funny Games en 97. Vous avez interrogé Haneke sur les raisons de cette violence. Qu'est-ce qu'il en dit ?
Alors c'est toujours compliqué parce qu'il a toujours tendance un petit peu à revenir, vous savez, de toujours ressortir un peu les mêmes arguments. La violence, je pense que c'est avant tout, c'est un homme qui vit dans notre société d'aujourd'hui et qui, comme n'importe qui, a peur, peut-être un peu plus que d'autres, mais qui vit dans une angoisse, on va dire, d'époque. Et que je pense que toutes ces peurs, ces angoisses, qui ne sont pas simplement une violence qui est apportée, qui est une violence qui est assénée par d'autres personnes ou une violence de guerre, mais aussi la violence de la maladie sur le corps. Enfin, c'est toujours en fait des atteintes au corps et aussi évidemment à l'esprit qui obsède son cinéma. Donc, comme tous les grands réalisateurs, c'est ses peurs qu'il met en scène.
Ça finit d'ailleurs là-dessus, sur la confession de sa peur de la souffrance et de voir souffrir les proches autour de lui. Mais vous, qui le connaissez mieux que nous autres spectateurs, qui connaissez aussi, j'imagine, son histoire, sa famille, qu'est-ce que vous pourriez en dire de plus de cette violence ? Alors que même, on sait que lui n'aime pas trop s'exprimer sur des sujets, surtout quand on lui pose les questions « Pourquoi ?»
Vous savez, c'est toujours... Moi, c'est l'habitude. Voilà, j'ai fait une douzaine de films documentaires et quelques portraits de réalisateurs. Et c'est vrai que moi, mon approche, je vais éviter un peu l'approche très biographique. Vous savez, un peu à l'anglo-saxonne, ou surtout sur ce type de personnage comme Haneke, au regard de son cinéma, on va tout de suite essayer de chercher le traumatisme, l'élément, le secret qui est à l'origine d'une œuvre aussi forte. Aussi travailler.
Et alors pourquoi vous méfiez de cela ? Alors que ça peut être intéressant aussi de savoir, d'en savoir plus sur Haneke à travers même son cinéma.
Oui, mais je pense qu'il faut que. Voilà, après, c'est aussi une étude. Bien sûr qu'on pourrait, à travers l'histoire de l'homme, donner des pistes et autres, mais je pense que sincèrement, il n'y a pas de secret Haneke. Vous savez, Haneke, il avait l'habitude de me dire tout le temps, parce que évidemment, de temps en temps, j'essayais quand même d'obtenir des informations, évidemment, sur sa vie. Enfin, pas encore une fois, pas de manière biographique qui serait mieux traitée dans un livre. Mais il me disait toujours, mais tu sais, ma vie, elle est extrêmement banale, elle a aucun intérêt. Et je pense, et ce qui est d'ailleurs un peu pour ça que j'ai choisi vraiment de le filmer vraiment au travail. Je pense réellement qu'il n'y a pas. Voilà, il n'y a pas d'élément qui permettrait
Comme
ces films où il explique toujours que ben voilà, c'est pas comme dans 71 fragments, la chronologie de Hajar. Bon voilà, il part d'un fait divers où un jeune un jour arrive avec un pistolet dans une banque et tire sur tout le monde et finit par se tuer lui-même. Et que, quelles que soient après les 1000 interprétations qu'on va donner dans la presse, etc., on ne trouvera jamais la véritable raison pour laquelle il a fait ça. C'est pas tangible, c'est pas forcément lié à un fait déclencheur. Voilà, je vous explique un peu pourquoi c'est pas forcément quelque chose qui va vraiment nous aider à éclairer son œuvre.
Axel Cadieu, vous qui êtes par ailleurs critique de cinéma et qui venez de signer un livre sur les serial killers, donc la violence, ça vous connaît. Comment vous regardez la façon dont elle est traitée dans les films de Haneke ? Quelque chose qui n'est... Il y a des pour et des contre hein, sur la façon.
Moi, je suis pas très fan de Michael Haneke.
Vous savez pour quelle raison ?
Oui, je trouve qu'il y a un côté un petit peu... En tant que cinéaste, en tout cas, je trouve qu'il a un regard un petit peu misanthrope. Et un petit peu moralisateur. Pour autant, je pense qu'il y a peu de réalisateurs aussi clivants que lui aujourd'hui. Et je trouve qu'il a quelque chose d'assez fascinant. Même si personnellement, j'aime vraiment pas. Il m'intéresse quand même beaucoup. D'où mon intérêt pour le documentaire. D'ailleurs, la seule fois où il avait été confronté, l'une des seules fois où il avait été vraiment confronté, c'était dans un magazine qui n'existe plus, qui s'appelait Panique. C'était en 2005, je crois. Et cette interview est géniale parce qu'il est poussé un peu à bout. Et il dit des choses, et c'est très intéressant.
Vous vous souvenez de ce qu'il racontait ?
Plus exactement.
Très bien, on essaiera de regarder. Panique. Ouais. Claire Maillot.
À propos de la violence au cinéma, Yves Montmaillard, vous l'aviez déjà abordé dans votre documentaire sur le cinéaste hongkongais Johnny To. Est-ce que vous voyez des correspondances entre ces deux cinéastes qui ont l'air différents ?
Peut-être, alors vraiment pas du tout dans les thèmes, mais c'est vrai que l'un comme l'autre, ce sont bon, forcément de très grands réalisateurs, mais qui ont un sens de la perfection, du détail. Travaille sur le cadre, oui, peut-être de ce point de vue-là. Sinon, effectivement, rien à voir avec le fait qu'il y en a un qui est à Hong Kong et l'autre en Autriche. Mais les thèmes sont vraiment... Johnny To, c'est plus un travail graphique. C'est un travail à ne que à l'intérieur de ces personnages, ces deux écoles. Mais sur ce point-là, effectivement, de gens qui ont un sens du cadrage, de l'ellipse aussi. Peut-être aussi, effectivement, de l'Asie. De ce point de vue-là, Haneke pourrait... c'est pas pour rien qu'il plaît beaucoup, d'ailleurs, en Asie. Hein, c'est l'école bressonienne qu'on apprécie beaucoup. Là-bas, la métaphore, l'ellipse, les indices. Et oui, voilà, ça peut être un élément qui peut raccorder l'œuvre hanekienne à celle de Johnny To. C'est vraiment... Il tire un peu par les cheveux.
Yves Montmaillard, vous avez interrogé de nombreux acteurs, notamment Emmanuel Riva, Jean-Louis Trintignant, et tous pointent la difficulté vraiment de tourner sous sa direction. On écoute un extrait du documentaire, c'est Jean-Louis Trintignant lors du tournage d'Amour. On va ensuite entendre une scène en train d'être filmée entre Trintignant et Emmanuel Riva, avec Haneke qui intervient, et puis ça finit par Emmanuel Riva, qui craque littéralement lors du tournage.
Extrait. La productrice Margaret Mengos disait, vous allez voir, le film, c'est une rigolade, on s'amuse beaucoup. C'est pas vrai, on s'amuse pas beaucoup. Lui, il s'amuse beaucoup. Mais tous les autres, les techniciens, les autres acteurs, on s'amuse pas beaucoup. On a peur, on est vraiment... C'est tendu.
Ouvre la bouche, Anne. Allez. Arrête ça. Si tu ne bois pas, tu vas mourir.
J'ai cru.
Emmanuelle Riva, elle était très touchée aussi par le sujet. Et souvent, elle s'impliquait tellement qu'elle en était malheureuse. Il lui fallait après souvent une ou deux heures. Elle était bouleversée. Elle ne pouvait pas parler. Elle était bouleversée parce qu'elle s'impliquait complètement.
J'en ai tellement marre. Tellement marre que je foutrais tout en l'air.
C'est quand même, c'est pas la vie, c'est un film. Hein. On fait un film.
Eh ben oui, mais justement...
On va pas oublier qu'on fait un film.
Oui, mais je veux pas dépasser le film, non. Ce qu'il y a, c'est que c'est très traumatisant. Alors, on est obligé de passer par des phases un peu débordantes. Parce que ou on n'en fait pas assez, ou on en fait trop. Tellement c'est traumatisant.
Est-ce que vous avez vérifié ça aussi avec les acteurs allemands ? On a l'impression que les acteurs allemands qui jouent avec lui, notamment Suzanne Lothar, hein, qui est une de ses actrices fétiches, elle est dans Funny Games, dans Le Ruban Blanc ou dans La Pianiste, on a l'impression que les Allemands réagissent différemment dans son cinéma.
Non, je ne pense pas. C'est juste ça. Bon, voilà, nous, on n'est plus latins et on a tendance à tout de suite... individus comme acteurs, on a besoin de la parole, surtout quand on n'est pas à l'aise et autres, que ce soit surtout les acteurs, il faut l'exprimer, hein, il faut l'énoncer. Les Allemands sont plus rentrés, on va dire, ils sont dans des situations tout aussi inconfortables, hein, j'ai pu le vérifier. Oui, absolument.
Vous pensez mais à quoi, par exemple?
Ah ben, vous citez Suzanne Lothar. Et c'est vrai qu'ils sont très à l'écoute. Ils essayent peut-être aussi parce que chez Haneke, il y a aussi beaucoup de nuances dans sa manière de décrire des scènes, de donner des indications aux comédiens. Et il faut toujours arriver à savoir s'il n'y a pas des choses qui sont énoncées des sous-textes et où. Donc, ils sont très très attentifs pour essayer de reproduire exactement ce qu'il veut. Parce que comme vous l'avez dit, il mime les situations, il donne des... Il les noie pas sous un flux verbal. Alors c'est assez drôle parce que finalement, il a plutôt tendance à juste donner des indications d'ordre topographique. Ben voilà, vous arrivez dans la pièce, vous ouvrez la porte, vous allez de ce point A au point B et vous dites telle phrase finalement qui est assez banale. En fait, on s'aperçoit que sous ces abords de scènes très anodines, il y a vraiment de la dramaturgie qu'on perçoit pas tout de suite. C'est vraiment des éléments comme ça qui donnent pour casser un peu le mécanisme du jeu d'acteur. Mais c'est toujours en fait tendu, très chargé, que ce soit un déplacement juste de trois pas autour d'un bureau dans une pièce ou des éléments encore une fois qui sont anodins, mais qui l'un avec un placé à côté d'un autre dans un raccord donne une sourde angoisse qu'on réalise pas tout de suite. Mais les comédiens ont conscience que quand ils ont l'habitude de travailler avec eux, que ce plus puis ce plus puis ce plus, ça va déboucher sur quelque chose d'important. Donc ils sont très à l'écoute. Très très à l'écoute.
Est-ce qu'il y a eu des comédiens qui étaient gênés de votre présence pendant le tournage?
Oui, si je dois dire, peut-être Isabelle Huppert, mais pour être très franc, c'est très compréhensible parce que c'est des scènes, notamment des scènes d'amour où elle était là, où elle devait se laisser aller à pleurer et autres. Et c'est vrai que quand vous sentez une autre présence de caméra, c'est franchement des choses que je comprends. Et d'ailleurs, dans ces cas-là, je me tiens plutôt vraiment à distance, vraiment dans ces scènes vraiment très, très intimistes. Oui.
Claire Maillot.
Il a commencé par la mise en scène de théâtre. Je crois que sa mère était actrice. Est-ce qu'il vous a parlé de ses débuts d'acteur?
Oui, il a toujours dit qu'il était un très piètre acteur, qu'il avait tenté parce que c'est très gratifiant d'être acteur et autres, mais qu'il a très vite laissé tomber parce qu'il a vu que c'était pas pour lui et qu'il y avait des gens qui le faisaient beaucoup mieux. Mais par contre, quand on le voit effectivement sur scène, c'est un véritable acteur. Et d'ailleurs, il y a cette scène que vous mentionnez de l'acteur dont j'ai oublié le nom qui joue le rôle du fermier qui tabasse son gosse.
Dans le ruban blanc.
Voilà, qui est une force de la nature et autres. Et c'est quand même, à un moment donné, Haneke qui lui explique comment faire, qui virevolte littéralement, prétendant donner...
terrifiant à ce moment-là.
Voilà. Alors ce type, qui est vraiment une masse de corps, qui est vraiment impressionnant et autres, le regarde en disant « mais je ne ferai pas mieux que toi ».
Il y a aussi une scène où on voit Haneke enseigner à des comédiens. Il parle de sa propre expérience de comédien, d'une improvisation d'une heure. Mais c'est quoi cette histoire, en fait?
Non, c'est juste parce que il a été tout simplement lui-même. Il a subi Alors c'est les cours, d'une américaine qui était venue donner des cours, je crois, à Vienne, Suzanne, je ne sais plus. Enfin, très lié un peu à l'acteur studio. Et donc, il avait manqué un signe à un moment donné dans la pièce Les Mouettes de Tchekhov, un signe qui devait lui être donné à un moment donné pour intervenir sur un dialogue qu'il n'avait pas saisi et qui s'est retrouvé complètement bête, apeuré, qui ne savait plus quoi dire et qui c'est pour lui finalement aussi une de ces pas forcément humiliation, mais de ces grandes peurs du trou du texte, de ne pas savoir comment agir sur scène, de perte de moyens. Je crois que c'est quelque chose peut-être qu'il n'aime pas non plus, cette perte de moyens. Donc en tant que réalisateur, où on est derrière la caméra, où on contrôle, et Dieu sait si on sait qu'Haneke est, comme il le définit lui-même, un contrôle fric, le comédien, d'être de l'autre côté, le comédien qui est dans les mains du réalisateur, qui peut perdre ses moyens, c'est peut-être effectivement une explication pour laquelle il n'est pas très à l'aise en tant que comédien.
Une dernière question.
Oui, en termes de réalisation, vous vous éloignez vraiment des codes du documentaire, il n'y a pas de voix off, et puis vous opérez des glissements entre fiction et réalité. On voit notamment Michael Haneke qui reprend à l'écran une scène de Trintignant, la scène de cauchemar d'amour, et le spectateur a l'illusion qu'Haneke entre véritablement dans son propre film. Qu'est-ce que ce procédé vous permet?
Écoutez, quand je fais des documentaires, documentaire, j'essaye toujours d'approcher le style du réalisateur ou d'acteur ou autre que je vais filmer. Ça peut paraître un peu prétentieux. C'est presque une espèce de méthode stanislavskienne adaptée au réalisateur. Mais du coup, je trouve que ça en dit beaucoup plus que finalement du texte et des paroles. Donc j'essaye moi-même, vu des thèmes abordés par l'œuvre d'Haneke sur la communication, la confusion des images, les multiples réalités qui se chevauchent, je joue moi-même à ça dans ma manière de travailler la mise en scène et le montage. C'est une sorte de jeu de miroir et je pense voilà, comme vous le dites, on ne sait plus à un moment donné si on est dans un extrait, on est sur le... C'est vraiment quelque chose que j'adore faire.
Et vous-même, vous avez intégré son cinéma ? Vous avez joué par exemple le rôle d'un figurant quelque part dans un film ?
Oui, maintenant que vous le dites, c'est vrai, ça m'est arrivé. C'est alors, je crois qu'il faut vraiment faire très attention, surtout dans l'édition DVD, parce qu'effectivement, quand à un moment donné, si vous vous souvenez, une scène dans Caché où Daniel Auteuil se retrouve seul dans une salle de cinéma, en l'occurrence, ça avait été filmé au cinéma du pâté de la place Clichy, et je suis censé, il y a 4 ou 5 spectateurs qui se trouvent derrière lui, plongés dans l'obscurité, et je suis l'un d'eux.
Quelle mise en abîme.
Mais il faut vraiment éclaircir son écran pour pouvoir me retrouver.
Le rendez-vous. Extérieur.
Yves Montmaillère et Axel Cadieux, on vous retrouve dans quelques instants. Mais tout de suite, c'est le questionnaire autoportrait du lundi de Manu Farine. Et ce soir, dans la série Les professionnels de la profession, c'est Erwan Kersané. Il est ingénieur du son, Manu Farine.
Erwan Kersané, ingénieur du son, qui a travaillé entre autres avec Philippe Parrino, Douglas Gordon, Amos Gitaï, Catherine Breillat, Léo Scarac, ça c'était sur Holly Motors, ou plus récemment sur Un enfant de toi de Doyon ou De Guerlas d'Olivier Ponchot.
Questionnaire son, Erwan Kersané, Manu Farine.
Le son de votre enfance.
Un son de coulisses. Ma mère ayant été script au cinéma, j'ai passé du temps sur les plateaux avec elle. Et mon père fait du théâtre. Et cette ambiance sonore-là, de ce qui entoure le lieu du spectacle, finalement finit par prendre plus d'espace.
Premier son enregistré.
Le premier son que j'ai enregistré, je pense que c'est un bruit de chariot dans une gare. Première exploration de la dynamique. De ce que ça représente d'être dans un lieu très bruyant et d'enregistrer quelque chose de très bruyant et de voir comment ces deux choses-là peuvent se rendre visibles et se raconter mutuellement.
Une figure d'ingénieur son.
Le premier que j'ai rencontré qui m'a vraiment marqué, qui était venu nous parler à l'école, c'était Antoine Bonfanti qui est mort. Ce qui m'a marqué, c'est la façon dont il nous expliquait son mode de communication avec René. Ça passait par des correspondances de couleurs, de musicalité, de rythme, etc. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce que ça paraît possible d'envisager le rapport du son à l'image dans ses dérivations et pas seulement dans ses analogies ou dans ses correspondances techniques ou dans ses exigences techniques. Et là, Bonfanti qui nous parle d'un son humide, qui nous parle d'un son jaune, etc. Ouais, c'était assez important, quoi. Après, j'ai été beaucoup marqué par Jean-Pierre Duret, qui est un ingénieur du son qui travaille entre autres avec les Frères Dardenne depuis longtemps, qui a fait les derniers films de Jean-Marie Straub. Je me suis rendu compte que c'est un ingénieur du son qui diabolisait pas du tout les HF, par exemple les micro-HF, qui avait l'exigence avec la perche. Donc ça, c'était une rupture aussi avec l'école un peu années 70 des ingénieurs du son comme Jean-Pierre Rue ou Pierre Gamet, etc., qui eux étaient là, disaient oui, il y a le M160, la perche, il n'y a que ça de vrai, le reste c'est moche, etc. Il faut jouer les plans sonores, il faut faire... Là non, il y avait un geste qui me paraissait plus contemporain et tout aussi respectueux de la profondeur de ce qu'on peut capter en termes de cinéma, quoi, au niveau du son.
Un film dont le travail sonore vous a frappé.
Moi je suis un fan de La règle du jeu de Renoir, mais au son je trouve ça extrêmement vivant, quoi. Il y a de la vitalité, je trouve qu'il y a une stratification des possibilités du son, et du son direct en grande partie, parce que c'est quasiment que du son direct.
Le texte qui parlerait le mieux du son au cinéma.
S'il y a un livre qui a été déterminant pour moi, vraiment déterminant pour moi, c'est les deux livres de Deleuze sur le cinéma. Parce que la rupture entre l'image-mouvement et l'image-temps, c'est la bascule d'un cinéma d'action à un cinéma psychique, de stupeur. Souvent le son... Il investit cette fonction de venir casser une forme d'autoritarisme de l'image sur les sens, nous en prendre conscience de la violence de cette image. Je pense que le livre de Deleuze, il raconte assez ça d'ailleurs, l'image-temps, et ça m'a aidé à prendre conscience de ça. Mais c'est valable d'ailleurs dans l'espace du documentaire comme dans la fiction.
Erwan Kersané, merci. Le rendez-vous.
À quoi ?
Serial Killer.
Plateau sanglant avec vous, Axel Cadieu, journaliste. Vous collaborez notamment au site Slate et au magazine SoFilm. Vous signez aujourd'hui chez Capricci une série de tueurs, les Serial Killers, qui ont inspiré le cinéma, soit 11 textes sur 11 films inspirés par un ou plusieurs tueurs en série. Du boucher de Plainfield qui a inspiré Massacre à la tronçonneuse, au vampire de Düsseldorf qui est à l'origine de M le Maudit, en passant par le tueur du Zodiac, traqué par l'inspecteur Harry. Petite bande-annonce du livre, réalisée par Thomas Beau.
Hello.
Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer.
Hello.
Who is this?
Serial killer.
You tell me your name, I'll tell you mine.
I don't think so.
What happened was true. The most bizarre and brutal series of crimes in America.
Un serial killer, tueur en série.
Oh, serial killer.
What's that noise?
But there's a body in the window seat.
Yes, dear. We know.
Someone is playing a deadly game.
It all began with a scream.
Axel Cadieu, on finit sur la musique d'Arsenic et Vieille dentelle de Frank Capra, un film qui a un statut à part dans votre livre parce que c'est la seule comédie, à une époque d'ailleurs où le serial killer n'est pas devenu encore un héros de cinéma. Et puis, autre exception, ce sont les seules femmes de votre liste qui sont les personnages réels qui ont inspiré les deux vieilles pittoresques de Capra.
Alors, il y en a deux, en effet. La première, c'est Vera Renzi, qui était une femme qui vivait en Europe de l'Est, qui a assassiné près de 40 personnes, je crois, entre 30 et 40, dont son propre fils, et puis toute une série d'amants, parce qu'elle était maladivement jalouse. Donc ça, c'est la première inspiration. Et puis la deuxième, c'est une dénommée Amy Archer Gilligan, qui, elle, était une Américaine fin du 19e siècle. J'ai oublié quel état. Ohio peut-être, je ne sais plus, et qui elle pour le coup tuait par volonté de détrousser ses victimes. Elle tenait une maison de retraite et il y a eu un nombre absolument hallucinant de décès dans l'espace de 3-4 ans. Forcément, ça a un peu alerté les gens. Et donc Capra voit ces deux faits divers adaptés dans une pièce de théâtre et il se dit ça c'est pour moi, ça je vais passer au burlesque. Et je vais changer un peu de registre et il s'est bien amusé.
Alors on voit justement tout l'enjeu du film, c'est-à-dire deux personnages qui n'ont absolument rien à voir dans la réalité puisque les deux femmes ne se connaissaient pas et qui sont réunis par les besoins de la fiction donc pour faire un film. Manu Farine.
Alors vous ouvrez le bal avec Massacre à la tronçonneuse, réalisé en 1974. Qu'est-ce qu'un tel film inaugure, en tout cas pour vous, pour que vous le placiez en ouverture du livre?
Je le place en ouverture, pas forcément pour des raisons liées à l'histoire du cinéma, mais parce que je pense que pour beaucoup de gens, c'est le plus frappant. Donc c'est simplement pour des questions, disons, de logique. Moi, Massacre à tronçonneuse, je l'ai découvert très jeune. Il m'a fait beaucoup d'effet, donc pour moi, c'était une évidence, quoi. Et puis en plus, les premières lignes du film mettent en avant le fait que le film repose sur un mensonge. Le film commence par des lignes écrites qui disent « ce que vous allez voir est une histoire vraie ». En fait, non, c'est absolument pas une histoire vraie. En tout cas, pas comme ça, elle est racontée autrement. Et ça me semblait intéressant de partir de cette idée de mensonge retravaillé qui contient quand même une part de vérité.
Qu'est-ce qui vous fascinait justement dans cette part de mensonge, puisque c'est en fait compte véritablement la clé de lecture du livre? C'est-à-dire que chaque fois le cas, c'est entre le fait réel et ensuite le fait de cinéma.
Je ne sais pas exactement ce qui m'a fasciné, mais ce qui m'a fasciné, c'est ce à quoi ça aboutit. C'est-à-dire que très souvent, dans les films majeurs de mon livre, on va dire M le Maudit, Massacre à la tronçonneuse, peut-être l'inspecteur Harry, ils se servent de la figure du tueur en série pour parler de leur époque, finalement. Et je pense que c'est ça le mensonge permet ça. C'est-à-dire qu'on va finalement s'inspirer d'un tueur préexistant, mais comme on a envie de raconter autre chose et comme on a envie de parler de notre époque, voire de l'époque passée, voire du futur, tout est souvent un peu lié, on va très vite s'en démarquer, on va aller ailleurs et pour ça, on va prendre des libertés, quoi.
Alors qu'est-ce qui se raconte de plus dans Massacre à la tronçonneuse ?
Dans Massacre à la tronçonneuse, il y a énormément de choses. Je pense que c'est très dense, mais il y a en partie cette idée de fracture sociétale aux États-Unis dans les années 70, entre des villes florissantes, une campagne désertée. Il y a aussi sur fond de guerre du Vietnam et de contestation hippie, ces jeunes qui vont en voiture au fond du Texas et qui tombent sur quelque chose qu'ils ne pensaient même pas exister. Et puis ils vont mourir. Il y a cette idée d'affronter une réalité de tapis qu'on n'aurait pas pu imaginer, quoi. Ça représente bien les États-Unis à cette époque-là, je pense, une fracture comme ça.
Alors
justement, comment est-ce que vous expliquez que le serial killer soit un tel réservoir à fantasmes aux États-Unis, beaucoup moins en Europe, beaucoup moins en France? Est-ce que c'est lié au statut judiciaire, juridique particulier du serial killer ? Est-ce que c'est lié à la géographie du pays qui permet comme ça une dramaturgie d'état en état ?
Mais je ne suis pas un historien des tueurs en série, mais je dirais comme ça, mon ressenti, c'est qu'il y en a quand même beaucoup plus aux États-Unis. Je pense que c'est peut-être lié au territoire. C'est d'ailleurs vrai aussi dans les films. Ce sont souvent des tueurs en mouvement. Et il y a peut-être une plus grande facilité du crime parce que peut-être qu'il y a plus de possibilités d'échapper à la police, j'en sais rien. Je peux pas trop l'expliquer, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'exemples de tueurs en série aux États-Unis, un peu aussi en Russie, beaucoup moins en Europe occidentale.
Yvon Meyer, est-ce que vous êtes client de ce genre de cinéma, en tout cas si ce thème peut vous intéresser, j'imagine, quand on travaille le cinéma de Michael Haneke, on est quand même confronté à cela.
De toute façon, on ne peut pas y échapper déjà quand on s'intéresse au cinéma, parce que j'aurais tendance même à dire que maintenant, le thème du serial killer, c'est devenu un genre à part entière, comme pouvait l'être le western ou le film noir. C'est-à-dire qu'il sert de prétexte. On l'a dit, les grands films de serial killer sont des prétextes à effectivement analyser la société dans laquelle on se trouve. C'est un corps malade qui renvoie à un corps sociétal de société malade. Et c'est vrai que les États-Unis, dans les années 60, qui ont accouché de tous ces grands films de serial killers, sont la période effectivement la plus agitée. Alors effectivement, je pense que l'idée de vétérans revenant du Vietnam, forcément traumatisés et autres, avec le cerveau en vrac, peut accoucher de tous ces frontables de gens qui partent en déperdition. Ce qui est plus intéressant maintenant, je trouve, parce qu'effectivement, il y avait cette idée des serial killers, la plupart, comme on vient de le dire, étaient dans le terreau américain, et que maintenant, ils surgissent un peu ailleurs. Alors effectivement, là aussi, mais ce qui est intéressant aussi, c'est d'en voir de plus en plus aussi dans le cinéma asiatique. Je crois qu'un des très grands finalement films pour moi de serial killer reste Memories of Murder de Bong Joon-ho, dont l'histoire est assez proche de celle de Zodiac d'ailleurs. Personnellement, je préfère Memories of Murder, mais qui reflète par exemple dans ce cas présent, c'est vraiment la Corée des années 80, la faillite d'un régime, le chaos et autres, avec une enquête qui n'aboutit pas d'ailleurs, basée sur un fait réel.
Mais j'adore ce film. Oui, j'adore Memories of Murder, j'adore Bong Joon-ho, je voudrais voulu adorer en parler, sauf qu'il s'inspire de faits réels et il raconte
ces faits réels, voilà. Sans que la fiction, enfin, il y a un travail de fiction, mais pas véritablement comme pour les autres.
Ce sont les mêmes noms, ce sont les mêmes résolutions, ils ne sont jamais retrouvés d'ailleurs, il n'est jamais retrouvé. Donc, oui.
Manu Farine.
Placer la série Dexter parmi les films de cinéma, est-ce que c'était juste simplement irrésistible ou est-ce que ça viendrait dire quelque chose du rapport télé-cinéma justement par le prisme des serial killers aujourd'hui ?
Je voulais mettre une série télé parce que je pense que ça, c'était important de parler aussi de comment les tueurs peuvent avoir une retranscription à la télévision, quoi. C'est pas une série qui me fascine, c'est pas le chapitre que je trouve le plus intéressant, si je dois être honnête. Je l'ai mis pour de la diversité et parce que l'exemple était, je trouve, assez tentant.
Voilà. Vous ouvrez avec Massacre à la tronçonneuse, vous fermez avec M. Le Maudit. À quelle logique répond l'organisation de cet album ?
De A à Z ?
Ouais.
L'idée, c'était de varier un petit peu la longueur, de varier un petit peu la date de sortie du film, aussi de ne pas faire trop violent successivement, c'était un peu difficile de ne pas faire violent, mais disons que s'il y a deux chapitres extrêmement glauques comme Massacre à la tronçonneuse et Scream qui se succèdent, ça fait un peu beaucoup, quoi. Donc on a essayé de faire un petit peu entre guillemets de légèreté avec des choses par exemple comme Arsenic et les dentelles ou Tueur-né, ils sont un peu moins disons violents, quoi.
Manu.
Il y a également, vous en parliez tout à l'heure, l'inspecteur Harry en 71, autour justement de la figure du tueur du Zodiac, où là, vraiment, le serial killer, c'est celui qui va légitimer le justicier, le cow-boy. De manière générale, quel discours politique la figure du serial killer a permis de porter aux États-Unis en particulier ?
Je dirais que c'est aux États-Unis. J'allais parler d'M. Le Maudit, mais disons...
C'est pas grave.
Moi, je commence très rapidement sur M. Le Maudit. Je trouve qu'il y a quelque chose de fascinant dans M. Le Maudit. C'est cette idée que le nazisme est en gestation et qu'il est porté à la fois par le tueur, M. C'est un film qui sort en 1931 en Allemagne. Et puis le tueur, en fait, est un miroir du peuple. Puis ensuite, ce peuple qui va porter Hitler au pouvoir, c'est quelque chose d'assez fascinant. Et puis ensuite, par la suite, dans l'inspecteur Harry, le tueur est aussi un moyen de représenter, si vous voulez, le mouvement hippie qui en 71 est déjà un petit peu sur le déclin à Altamont. Altamont a répondu à Woodstock, la famille Manson, tout ça, ce sont des exemples assez forts du déclin, disons, du versant sombre de la culture hippie. Et le tueur de l'inspecteur Harry, c'est ça. Il porte une ceinture avec un sigle Flower Power qui est tout déformé. Et oui, c'est quelque chose de le versant démoniaque quoi, de cette culture-là qui va se faire stopper en plein élan par le justicier qui est Clint Eastwood. Il y en a plusieurs d'autres. Hein. Zodiac dit beaucoup de choses aussi sur la même époque d'ailleurs, puisque de toute façon, ça parle du tueur du Zodiac.
Le rendez-vous, 10h, la session.
Eh bien, on va calmer tout ça, ou presque, Mathieu Conquis, avec de la musique pour votre grand retour, Water Babies.
Ouais, ils ont été récompensés l'année dernière à Jazz à Vienne. Leur disque Inner Island, qui vient de paraître, était du révélation du Jazz Magazine ce mois-ci. Ça, c'est pour le palmarès. À gauche, derrière vous, Laurent, c'est Armel Dupas qui est au clavier et ordinateur. Il est pianiste, formé au conservatoire. Et il a collaboré aussi du côté du cinéma. Il avait fait des arrangements pour Dans Paris, Christophe Honoré. Puis récemment, avec Michel Gondry, il avait travaillé sur une séquence de piano pour L'écume des jours. Corentin Rio, lui, c'est le batteur. Il est lui aussi passé par le conservatoire. Il est aussi impliqué dans un tas d'autres projets. Il est passé notamment par la scène new-yorkaise. Le duo clavier-batterie, ce qu'il y a ce soir dans le studio Water Baby, c'est une forme en réussite en ce moment, si on pense notamment au projet mené par Brad Meldo et le batteur Marc Juliana. C'était moins courant, hein, le duo piano-batterie. Pas de Rhodes ici, mais différents claviers, notamment le Nord, des séquences avec l'usage d'un vocodeur qui évoque un petit peu les voix de R ou de Kruder and Dorfmeister. Vous devriez reconnaître ça, Laurent. Ce qui n'interdit pas l'improvisation, un certain lyrisme, et ils ont choisi ce mot de Marc Aurèle en exergue, tiré des pensées pour soi-même. On se cherche des retraites à la campagne, sur les plages, dans les montagnes, et toi-même tu as coutume de désirer ardemment ces lieux d'isolement, mais tout cela est de la plus vulgaire opinion, puisque tu peux, à l'heure que tu veux, te retirer en toi-même. En direct sur France Culture, Water Babies, seul.
Is my heart a place for homeless souls? Time passing by, the distance takes me over. Just drawing day by day, no one can soothe inside. No way to recall this thing called love. A place for a homeless soul. Time passing by, the desperate takes me over. Just drawing day by day, no one can soothe inside. No way to recall the thing called love. I'm alone, you are gone. Lights are low, nothing more to say.
Water Babies en direct sur France Culture. Water Babies, ils seront le 16 mai en concert au Panonica, c'est à Nantes, le 22 mai au Sunset à Paris, le 21 juin au Festival Orléans Jazz, les 10 et 11 juillet à Lyon, le 12 juillet au Festival Jazz à Vienne et le 16 août au Festival Musique au Musée. C'est à Limoges, leur album est paru sous le label Naïve.
Il y a l'attention et il y a le climat.
Comme Massacre à la tronçonneuse et Scream qui se succèdent, ça fait un peu beaucoup, quoi.
Merci à nos invités. Yves Montmeilleur, Michael Haneke, profession réalisateur, sortira en salle ce mercredi. Axel Cadieux, une série de tueurs, les Serial Killers, qui ont inspiré le cinéma, a paru aux éditions Capricci. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain. Eh bien, tout est dit. Demain, une émission cinéma à Unifrance et caricature avec Isabelle Giordano et Radu Mihalianou. La session, ce sera Lee Fields pour la session musicale, c'est ça ?
C'est bien ça.
Exactement. Je rappelle que cette édition est toujours en partenariat avec Anou Paris, qui cette semaine met à son sommaire les souvenirs du Festival de Cannes 2014, des acteurs et des réalisateurs. C'est bizarre, ils ont déjà des souvenirs en 2014, alors c'est même pas arrivé. C'est parfait. Des annonces ?
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Mathieu Conquet, Manou Farine, Benoît Lagane, Claire Maillot, Marie Piot et Élodie Royer, à la technique Dauphard Guéry et Jacques Azubert, à la réalisation Thomas Beau.